Bonsoir, situation sécuritaire au Nord Kivu. C'est en principe ce mardi 28 février que le mouvement de retrait des rebelles du M23 doit commencer, et cela conformément aux recommandations issues du mini-sommet du 17 février des chefs d'État sur le processus de paix dans l'est de la RDC, tenu à Addis Abeba en Éthiopie. Sur le terrain, c'est tout le contraire. Au lieu de quitter les espaces, les rebelles du M23 ont plutôt continué à conquérir de nouvelles entités. La feuille de route proposée par les chefs de défense de la East African Community, réunie le 9 février 2023 à Nairobi au Kenya, prévoit qu'entre le 28 février et le 30 mars, le M23 devrait se retirer définitivement de plusieurs localités des territoires de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi afin de permettre le déploiement de la force régionale dans ces zones libérées. Comment analyser cette situation? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mardi 28 février 2023. Participe au débat Jean-Claude Mbabazé, président de la société civile du territoire de Rutshuru. Jean-Claude Mbabazé, bonsoir.
Oui, bonsoir madame, bonsoir aux co-débatteurs. Je dis aussi bonsoir à tous les auteurs de la radio Clapé qui nous suivent en pareil.
Maître Juvenal Mounoubou Mobi, député national élu de Walikale au Nord Kivu et cadre de l'UNC, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Il est aussi membre de la Commission des Français sécurité à l'Assemblée nationale. Maître Juvenal Mounoubou, bonsoir.
Bonsoir Kelly, bonsoir à tous les auditeurs de radio Clapé.
Le professeur Bob Kebamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique, il est coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale et aux Caraïbes. Professeur Bob Kebamba, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir aux auditeurs ainsi que mes deux co-débatteurs.
À Goma, au Nord Kivu, vous nous suivez sous la 95.5 et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net ou encore sur Canal Plus, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78. Et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
La réunion des chefs d'état-major des forces de défense de la communauté des États d'Afrique de l'Est, tenue à Nairobi le 9 février 2023, avait décidé que le retrait du M23 s'échelonnerait sur une période de 30 jours. C'est ce mardi 28 février que le mouvement de retrait des rebelles du M23 devrait débuter, mais sur le terrain, c'est tout le contraire qui s'observe. En effet, au lieu de quitter les espaces occupés, les rebelles du M23 et l'armée rwandaise poursuivent plutôt l'occupation des nouvelles zones. Entités. Reportage.
Réitérant cette recommandation des chefs de défense, les chefs d'État des pays membres de l'EAC ont appelé vendredi 17 février 2023 à un retrait de tous les groupes armés d'ici le 30 mars dans l'est de la RDC en proie à des violences. Une mesure qui s'applique aussi bien aux rebelles du M23 qu'aux groupes ISIS-RDC, CODECO et FDLR. En ce qui concerne le M23 en particulier, la feuille de route proposée par les chefs de défense de l'EAC prévoyait qu'entre le 28 février et le 10 mars, le M23 se soit déjà retiré définitivement de Rumangabo, territoire de Rutshuru, de Kibumba, territoire de Nyiragongo, et de Karenga, Kirolirwe et Kichanga, territoire de Masisi. Ce, avant de quitter Kishishe, Bambo, Kazaro, Tongo et Mabenga, territoire de Rutshuru, entre le 13 et le 20 mars, puis finir par quitter Rutshuru Centre, Kiwanja, et Bunagana entre le 23 et le 30 mars prochain. Cela pour permettre le déploiement de la force régionale. Cependant, sur le champ de bataille, le M23 a occupé de nouvelles localités qui ne figurent pas sur cette liste. C'est notamment Mushaki, Busumba, et à présent, c'est autour de Rubaya, Biambwe, Mweso, Essaq et territoire de Masisi où les combats se poursuivent.
Merci pour ce reportage, Jean-Claude Mbabazé. Vous êtes président de la société civile du territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Comme je l'ai dit dans mon introduction, c'est en principe ce mardi 28 février que le mouvement des retraits des rebelles du M23 doit commencer, et cela conformément aux recommandations issues du mini-sommet tenu le 17 février à Addis Abeba en Éthiopie. l'Éthiopie. Voilà, mini sommet des chefs d'État sur le processus de paix dans l'est de la RDC. Mais sur le terrain, c'est tout le contraire. Au lieu de quitter les espaces, les rebelles du M23 ont plutôt continué à conquérir des nouvelles entités. Dites-nous, vous qui êtes de la société civile, quelle est la situation sur place? Est-ce qu'il y a, vous observez, un mouvement de retrait des rebelles du M23 dans les localités conquises par ces derniers?
Oui, merci madame. Donc avant de répondre à votre question, permettez-moi de m'acquitter encore une fois d'un agréable devoir de souhaiter en tout cas compassion, transmettre ma compassion à tous les déplacés de Massissi, de Rutshuru et même de Niragong qui sont obligés aujourd'hui de vivre dans des camps de déplacés parce qu'il y a seulement des gens qui veulent imposer leur hégémonie sur notre pays. Mais sinon, pour revenir à votre question, madame, donc il faut dire que croire à ce que l'M23 se retire sans qu'il soit combattu, ce serait vraiment une utopie et ce serait vraiment un rêve. Donc, comme vous venez de le dire, il était prévu qu'aujourd'hui, il commence à se retirer. Mais malheureusement, au lieu qu'il se retire, nous sommes sur le terrain, il faut faire encore une fois un renforcement en hommes et en munitions vers toutes les lignes de front. Aujourd'hui, je peux vous rassurer, madame, pendant cette journée, il y a eu trois camions Fuson qui sont venus du Rwanda, en traversant Kibumba, qui sont dirigés vers Tongo pour aller renforcer les fronts au niveau de Mweso. Ce matin même, il y a même deux Fuson, plein de militaires qui sont venus de Tchanzu, Bunagana, qui sont arrivés à Rutshuru, et ils vont aussi prendre la direction, certainement, de Tongo vers Kishishe. Comme venait de le dire le journaliste, il faut aussi noter que au lieu qu'on sente qu'il y a vraiment un sentiment de retrait, les affrontements se sont intensifiés depuis avant-hier jusqu'à aujourd'hui, même pendant cette journée, le matin, aux alentours de ça, que vers Malé, Luanga, il y avait encore des affrontements entre ces rebelles et même les résistants appuyés par les FARDC. Donc bref, nous qui sommes sur le terrain, au lieu de voir même un signe de retrait, on est en train de voir plutôt un renforcement encore davantage. Et cela veut dire que les M23, comme d'habitude, ne sont pas prêts à quitter sans qu'il y ait la force pour les chasser de toutes ces zones.
Donc pour vous, Jean-Claude, il faut utiliser la force, toutes ces recommandations, que ce soit des chefs d'État ou chefs d'État-major de l'EAC, ne seront pas prises en compte ou ne seront pas suivies par les rebelles du M23.
Madame, vous venez de le dire, ce n'est pas les premières décisions. Il y a eu des décisions à Luanda, il y a eu des décisions, c'est vraiment à Bujumbura, il y a eu des décisions au Kenya, mais toutes ces décisions n'ont pas été suivies et l'M23 n'a pas été inquiété après les refus d'exécuter toutes ces décisions-là. Et pour les cas d'espèce, qu'est-ce qui garantit que ces décisions seront suivies? Non, je ne pense pas. Parce que les signes sont déjà là. Au lieu que ces décisions soient suivies, on observe encore un renforcement. Je vous apprends, madame, que même hier, il y a un char de combat de l'armée rwandaise qui a traversé du côté de Kabuhanga et qui est arrivé même sur la zone de Buhumba. Donc c'est pour vous dire, pour nous, en tout cas, nous sommes sur le terrain, il y a aucun signe. Mais également, on s'attendait à ça, parce que c'est pas aujourd'hui que l'M23 va se retirer, après tous ceux qui aillent comme sommet, qui leur demandent de se retirer, après tous les discours qu'ils ont présentés, comme quoi ils allaient se retirer, mais aussi, il faut noter, après cette cohabitation avec l'EAC, madame. Je peux vous dire que, quand ils avaient promis qu'ils vont se retirer à Kibumba, il y a un poste qui était parti s'installer à Kibumba, mais l'M23 sont restés là-bas, ils n'ont pas été inquiétés. À Rumangabo, c'était la même chose. C'est vous dire que pour l'EAC, c'est des intimidations. Ils connaissent, ils savent bien que c'est des intimidations qu'on leur donne, mais par derrière, il y a apparemment d'autres agendas, il y a d'autres accords qu'ils ont avec ces gens-là et qu'ils ont les décisions là. Pour eux, en fait, c'est des discours fantaisistes tels qu'ils le prennent. Et aussi, ça leur permet de se réorganiser. Parce que comme vous le savez, quand il y a ce genre de discours de retrait, chez nous, au FADC, on respecte les cessez-le-feu, on a tendance à faire les dociles face à un diable. Et pendant qu'il y a l'observation de cessez-le-feu chez nous, de l'autre côté, c'est le moment maintenant de se réarmer, de se réorganiser, parce que vous vous rappellerez, madame, que à chaque fois qu'il y a eu un sommet qui a demandé ce cessez-le-feu, ça a été toujours suivi par la chute de beaucoup de localités entre les mains de M23.
Jean-Claude Bambazé, dans les localités occupées par le M23, la cohabitation se passe comment avec les populations?
Il faut vraiment sentir les problèmes que subissent les populations. Je peux vous dire que les gens, ils sont non seulement traumatisés, mais ils vivent vraiment un calvaire sans nom. Je peux vous dire que les gens n'ont pas droit à aller même au champ. Tous ceux qui tentent d'aller au champ, ils sont massacrés. Je peux vous dire, c'est dimanche même, au niveau de Tongo, il y a eu massacre de beaucoup de personnes. Une seule victime a pu échapper et s'est retrouvée dans une institution sanitaire de la place, à Rutshuru. Aujourd'hui, madame, il y a des morts. Vous avez appris, il y a eu des assassinats à Bunagana, à Tchengerero. Il y a des pillages un peu partout. Les gens n'ont pas droit à l'expression. Donc, il y a des travaux forcés. Il y a des gens qui sont détruits, enrôlés par force au sein du M23. Donc, bref, les gens qui sont là, ils y vivent parce qu'ils n'ont pas où aller. Mais sinon, c'est vraiment un calvaire qu'ils vivent. Et ça aussi, nous portons ces micros pour dénoncer tous ces abus et aussi interpeller cette communauté internationale qui se réfère beaucoup plus au retrait, mais sans condamner même les auteurs, sans condamner même les sponsors premiers qui est le Rwanda. Donc comment on peut se mettre à côté de quelqu'un qui nous agresse? Tous les rapports confirment que le Rwanda est là, mais ils se mettent avec le président rwandais et son gouvernement, ils ne l'ont jamais condamné. Et il lui faut participer aussi à des décisions, madame. C'est comme aller chercher des médicaments à son sorcier. Et qu'est-ce qu'on peut attendre de ce genre de sommet? Pourquoi les populations qui sont sous le contrôle des droits, franchement, ils vivent un moment très difficile de leur histoire.
Maître Juvenal Mounoubomoubi, député national élu de Walikale Nord Kivu, vous êtes cadre de l'UNG, c'est un parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Vous êtes aussi membre de la Commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale. Les M23 censé préparer leur retrait. Le constat sur le terrain, ces rebelles sont toujours à l'offensive. Comment on peut expliquer cela?
Merci madame. De Walikale où je me trouve, hein, je peux vraiment vous confirmer qu'il n'y a pas que dans les autres territoires, même à Walikale, partout en fait c'est la désolation. C'est la désolation, c'est des souffrances qu'en dire les populations. Même si les affrontements n'ont pas atteint Walikale, et les souhaits c'est que ça n'atteigne pas Walikale, évidemment. Et les routes sont bloquées, hein. C'est le cas par exemple de l'axe Walikale Masisi Goma. C'est difficile d'y accéder parce que la M23 occupe Mushaki pour le moment. Eh bien, ce qu'il faut savoir, ce que moi je constate, c'est qu'il y a une duplicité entretenue. Il y a une duplicité entretenue, il y a une complicité qui profite au M23 et au Rwanda. Et lorsqu'on parle du retrait ou du début du mouvement de retrait tel que convenu à Addis Abeba, une autre question qu'il faut se poser, mais le retrait pour quel objectif? Est-ce que le retrait pour installer une zone tampon, comme ce fut le cas de Kibumba et de Rumangabo? Est-ce que le retrait, c'est pour faciliter la restauration rapide de l'autorité de l'État, ce que nous souhaitons? Est-ce que le retrait, c'est pour permettre à M23 de gagner d'autres territoires? Il y a une complicité, il y a une duplicité, et je pense que la solution est en ce moment militaire d'abord, parce que nous devons nous défendre. Nous devons nous défendre. Il faut que les FARDC arrivent à reconquérir tous ces territoires, toutes ces localités. Souvenez-vous, ils étaient presque à Sake il y a de cela, je crois, 2 semaines ou 1 semaine et demie. Mais les FARDC les ont repoussés jusqu'à Kichanga. Mais on n'a pas compris pourquoi ils se retrouvent actuellement à Rubaya. Ils ont pris Mushaki et puis Rubaya. Ça veut donc dire que dans les fermes qu'il y a à Masisi, hein, les fermes, c'est au fait des passages d'infiltration, c'est des lieux d'infiltration aussi dans ces fermes-là. Il peut y avoir des éleveurs, mais en réalité, des éleveurs qui gardent les armes dans leurs costumes. Eh bien, il faut repousser l'ennemi. Donc, moi, j'insiste ici, il faut une réorganisation rapide, il faut une contre-attaque, il faut une légitime défense à ce niveau. Et c'est vrai, on peut continuer avec la diplomatie, mais je crois que c'est d'abord ça la solution pour le moment. Une autre solution, c'est la pression diplomatique. Hein. Nous attendons à l'arrivée du président français. Je ne vais pas demeurer naïf à ce niveau. Je sais que la solution, elle est avant tout interne. Mais je crois qu'il faut profiter aussi de son arrivée et il faut lui poser la question. Et on attend qu'il demande à Kagame de retirer ses militaires de l'est du Congo. Si la France demande à Kagame de retirer ses militaires de l'est du Congo, si les États-Unis demandent à Kagame de retirer ses militaires de l'est du Congo, si la communauté internationale demande clairement à Kagame, sans gants, à lui demander de retirer ses militaires, eh bien, moi, je reste convaincu que Kagame retirera ses militaires. Et la guerre du M23 prendra fin.
À ce que je sache, maître Juvenal, cette demande a déjà été faite et par la communauté internationale et par la France même, qui a demandé au président rwandais de cesser tout appui au mouvement rebelle du M23.
Moi, je crois qu'il faut marteler. Il faut vraiment marteler et il faut dire aux grandes puissances, à la communauté internationale, de les dire sans interruption, de continuer à les dire, de marteler sur ça. On a connu une situation similaire en 2013, avec 2012-2013 avec la M23, mais on a vu que cette guerre a pris fin, évidemment. C'est vrai, il y avait une réorganisation sur le plan militaire, mais il y avait aussi, hein, ça il faut pas l'oublier, une pression internationale qui était exercée en ce moment-là par les envoyés spéciaux dans la région des Grands Lacs. C'était la conjonction un peu de ces deux types de solutions qui ont fait à ce que la M23 puisse prendre fin. Et là, on assiste à un M23 nouvelle formule, toujours appuyé par les Rwandais. Et donc, je reste convaincu que si nous maintenons la puissance de feu, si nous organisons une résistance ou une légitime défense, une réaction, et en même temps, s'il y a une pression diplomatique qui continue à s'exercer, je crois que on peut assister à une situation comme celle de 2013 où on a vu le M23 être défait ou se retirer. Donc moi je crois qu'il faut aller avec les deux là, mais évidemment il faut plus rester distrait. On ne doit pas rester distrait dans les sommets parce qu'on a comme l'impression que les sommets de East African Community, au fait, c'est des occasions où le Congo est en train d'être distrait tout simplement. Il y a des engagements qui ne sont pas respectés. On parle des retraits, mais on ne sait pas de retrait pour quel objectif. C'est difficile que l'on soit convaincu que c'est des solutions pour la paix lorsqu'on dit voilà le M23 se retire et que les territoires restent occupés par East African Community. On est en train de créer des zones tampons et les zones tampons évidemment ça laisse penser à une balkanisation des fêtes du pays. Si les retraits s'effectuent, eh bien les retraits débarquent immédiatement par un redéploiement de l'autorité de l'État. Donc le M23 se retire d'une localité. Et immédiatement, l'armée congolaise occupe la localité. À ce moment-là, les retraits auraient un sens. Mais quand les M23 se retirent d'une localité, et c'est une force qui n'est pas congolaise qui occupe ces localités, sans savoir et sans agenda et sans calendrier, sans savoir exactement quel jour les FARDC réoccuperont ces localités, eh bien, on nous mène là dans un schéma qui ressemble fort à un schéma de balkanisation de l'Est du Congo.
Maître Juvenal, comment vous répondez à ces Congolais, hein? Il y a certains Congolais qui estiment que, comme le M23 a conquis déjà une grande partie, presque du nord Kivu, le gouvernement congolais est obligé de dialoguer avec ce mouvement terroriste, tel que qualifié par le gouvernement congolais.
Alors, le gouvernement congolais négocie avec le M23, c'est amener le gouvernement à une humiliation de plus. Et ça, je refuse. Donc, le gouvernement ne doit jamais négocier avec la M23. Ça, il ne faut même pas imaginer. Mais je suis d'accord qu'il faut maintenir la pression diplomatique sur le Rwanda, un dialogue franc et sincère, évidemment, à travers les canaux diplomatiques, pour que le Rwanda retire ses militaires de l'Est du Congo. Ça, c'est concevable. Donc, il faut que Tshisekedi parle directement à Kagame, continue à lui parler directement, que Tshisekedi dise à Macron, et que Macron, lorsqu'il sera à Kinshasa, adresse un message direct à Kagame, ça je soutiens. Mais dire que le gouvernement congolais peut ouvrir un espace de négociation avec l'M23, au fait, c'est pousser le gouvernement à une plus grande humiliation au-delà de l'humiliation qu'il y a maintenant là. Et donc moi, je suis pas d'accord et je n'encouragerai jamais le gouvernement à engager de négociations directes avec l'M23. Un mouvement qui, visiblement, a l'appui en hommes, en matériel, un appui du Rwanda, un appui manifeste, indéniable.
Professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique, vous êtes coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale et aux Caraïbes. Plusieurs initiatives diplomatiques ont été lancées sans succès jusqu'à présent. Un mini-sommet a été organisé en novembre 2022 à Luanda. Ce mini-sommet avait notamment ordonné un retrait du M23 de ses positions, ce qui n'a pas eu lieu. Le 17 février à Addis Abeba, les dirigeants des États de l'Afrique de l'Est ont adopté un nouveau calendrier prévoyant un retrait de tous les groupes armés d'ici au 30 mars. Ce retrait doit en principe commencer ce mardi 28 février. Vous avez suivi les analyses de Jean-Claude Bambazé, de Maître Juvenal Mounoubo. On ne sent pas cette volonté du M23 de pouvoir se retirer des localités conquises. Comment vous analysez cette situation?
Merci beaucoup pour la question. Ce qu'il faut savoir, madame, c'est que lorsque vous citez effectivement ces différents accords et ces différentes décisions qui ont été prises, il faut bien lire effectivement ces décisions, il faut bien lire les communiqués et qui en sortent. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a deux discours à chaque fois. C'est-à-dire qu'on a un discours qui sort par rapport à ces communications, par rapport à ces décisions, que chacun interprète à sa façon. De manière claire, lorsque vous lisez effectivement l'accord de Luanda, on demande effectivement le retrait des groupes armés, de tous les groupes armés, dont le M23. Vous lisez les communiqués de Addis Abeba, c'est pareil. Vous lisez le communiqué de Bujumbura, c'est aussi la même chose. Nairobi, c'est aussi la même chose. Mais lorsque vous posez la question maintenant aux interlocuteurs, non pas congolais, mais aux interlocuteurs ougandais, burundais, kenyans et voire aussi l'Angola, ils vous donnent en fait une autre explication à chaque fois. Et cette explication qui est donnée est malheureusement à chaque fois aussi en contradiction avec la pression nationale qui est exercée sur les dirigeants congolais afin de ne pas aller dans la direction de l'East African Community. Et donc c'est pourquoi qu'on a cette tendance d'avoir deux lectures différentes à chaque fois, et dans ces deux lectures différentes, lorsqu'il y a un flou, le flou facilite qui? Facilite à celui qui a plus de force. Et qu'est-ce qui a plus de force aujourd'hui? C'est le M23 appuyé par le Rwanda, et j'insiste beaucoup, on l'a déjà dit plusieurs fois ici dans cette émission, c'est que ce n'est pas uniquement le Rwanda, c'est aussi appuyé par l'Ouganda, et cette même Ouganda qui est aussi un partenariat avec l'État congolais dans le cadre de la lutte contre les ADF dans le Grand Nord et ainsi en province de l'Ituri. Donc il y a ces deux lectures, et ces deux lectures amènent des contradictions, et lorsque ça amène des contradictions, et ces contradictions et ce flou profitent à celui qui a plus de force, et actuellement celui qui a le plus de force, c'est le M23.
Comme je l'ai dit, on ne sent pas cette volonté du M23 de pouvoir se retirer des localités conquises. Maître Juvenal Mounoubo et même Jean-Claude Bambazé pensent que ce qu'il faut faire maintenant, c'est utiliser la force. Alors que du côté de l'EAC, on privilégie plus la négociation, la diplomatie.
Oui, nous sommes sur un terrain militaire. Quand on est sur un terrain militaire, généralement, on dit toujours que sur le terrain militaire, la finalité de la guerre commence toujours par la négociation et se termine par la négociation. Ça, c'est l'expression que nous enseignons tous au niveau des relations internationales. Mais dans le cas présent ici, comme l'a dit d'ailleurs l'honorable, l'aspect négociation veut dire capitulation, ça veut dire débâcle du côté congolais. Ça aura des répercussions politiques importantes pour les dirigeants congolais par rapport à un ventre qui pourrait sentir renforcé du fait que c'est la demande du M23 depuis toujours. Alors, pour que, entre guillemets, par rapport à l'option militaire, aussi, lorsque vous devez faire l'option militaire, c'est d'avoir les moyens de votre politique. C'est d'avoir les moyens de pouvoir faire la guerre. Mais qu'est-ce qu'on constate sur le terrain, malheureusement? On constate sur le terrain que le M23 continue à se renforcer, continue à gagner des territoires, et continue à gagner des territoires, consolider même ses bases. Et lorsqu'on arrive à une consolidation de ses bases, pour pouvoir les déloger, je vois mal comment on va les déloger si ce n'est plus que si la possibilité de l'armée n'est pas en mesure de pouvoir arriver à accomplir cette tâche, il restera que la solution, à un moment donné, de pouvoir s'asseoir autour de la table. Quand on dit s'asseoir autour de la table, ça veut dire processus de Nairobi qui a déjà été enclenché et qui est en panne aujourd'hui.
S'asseoir autour de la table, ça veut dire la RDC en face du M23 ou la RDC en face du Rwanda?
Oui, il y a deux processus, madame. Il y a deux processus. Il y a le processus de Luanda, c'est RDC Rwanda, en tant que relation bilatérale dans le cadre de tous les processus qu'il y a. Puisqu'il y a une dimension de manière très claire qui a déjà été identifiée au niveau international et pas dans tous les rapports, c'est que la détérioration des relations entre la RDC et le Rwanda continue à exacerber cette violence qui est que l'on est en train de vivre. Par ailleurs, on a la dynamique de Nairobi qui est la dynamique qui concerne ce qu'on appelle les groupes armés nationaux, locaux, dont les Codeco, Mai Mai, Yakutumba. On a énuméré plus ou moins 120 groupes armés qui sont donc impliqués. Alors de ce fait, c'est le processus de Nairobi dans lequel le gouvernement congolais refuse que le M23 intègre cette dynamique. Alors si le gouvernement congolais continue à refuser que le M23 intègre cette dynamique, ben, nous allons avoir un processus qui va être bloqué. Et dans le contexte, comme je vous ai dit, que au niveau régional, le M23 se sent de plus en plus renforcé du fait qu'il y a blocage, et quand il y a blocage et qu'il y a flou, ça profite, comme je l'ai dit tout à l'heure, à celui qui est le plus fort, et malheureusement, c'est ce que l'on a pour l'instant. Au fur et à mesure que la RDC continuera à ne pas aller dans ce sens-là, Nairobi, eh bien, nous allons continuer à avoir sur le terrain des difficultés à pouvoir reconquérir les terrains, mais on va avoir aussi que les terrains vont être de plus en plus perdus dans une dimension et dans où là aussi le niveau national, c'est-à-dire la pression qu'il va avoir au niveau national par rapport aux dirigeants congolais, c'est-à-dire j'imagine par exemple tous les députés du Nord Kivu, tous les députés de l'Ituri, j'imagine les populations avec tous ces déplacés, vont exercer une pression telle que Kinshasa sera obligé de pouvoir chercher une solution, puisque la solution militaire ne parvient pas à apporter les résultats escomptés. Va-t-on rester dans cette situation en sachant que cette situation va avantager le M23, ça c'est vraiment une question fondamentale qui sera d'ailleurs posée, je suis tout à fait convaincu, que ça sera l'objet des discussions qui va y avoir lieu entre Emmanuel Macron et le président Tshisekedi.
Cette situation qui préoccupe le chef de l'État, il a dit en Suisse, hein, cette situation risque d'hypothéquer même le processus électoral. Il faut donc trouver des solutions très rapidement.
Oui, voilà. Le processus électoral est déjà perturbé, puisque le gouvernement congolais refuse de pouvoir discuter avec le M23 parce que c'est un mouvement terroriste. Or, le M23 contrôle déjà une bonne partie vraiment du nord, du qu'on appelle le Petit Nord, est contrôlé par le M23. Il y a des populations qui y sont, et comme l'a dit tout à l'heure le président de la société civile de Rutshuru, il y a encore des populations qui sont là-bas et qu'il faudrait pouvoir identifier, enrôler, pour être prises en considération au moment où il pourrait y avoir quelque chose. Or, si on ne discute pas avec le M23, comment avoir accès à ces territoires qui sont contrôlés par le M23? Comment résoudre le problème de tous les déplacés? Les déplacés qui sont d'ailleurs même du côté des Walikale et qui sont même du côté Sud Kivu, et d'autres qui sont à Goma, d'autres qui sont éparpillés un peu partout. Comment arriver à pouvoir les identifier en fonction de leur territoire, en fonction de leur circonscription? C'est des choses qui prouvent véritablement que le processus électoral est déjà, pas que va, mais est déjà perturbé par cette situation. Et donc nous allons véritablement aller vers quelque chose qui risquerait malheureusement de pouvoir dire qu'il n'y aura pas d'élection en décembre 2023 et que ces élections seront reportées du fait qu'il y a une bonne partie de la population qui ne saura pas participer au processus électoral.
Jean-Claude Mbabazé, on va ouvrir notre standard pour prendre ces nombreux auditeurs qui appellent pour participer à ce débat, pour donner aussi leur point de vue hein, au thème de ce soir. On va se rendre à Goma, au Nord Kivu, pour écouter cet auditeur.
Moi, c'est Florentin Kurunziza, étudiant ressortissant du territoire de Rutshuru, ici en ville de Goma. À mon avis, rien n'est à attendre comme respect à cette énième feuille de route programmant le retrait de ce mouvement, car le gouvernement congolais a failli sur tous les plans, que ce soit militaire, politique et diplomatique. Celle-ci devrait être respectée si le régime actuel était en position de force, mais la réalité que nous observons sur le terrain nous montre que l'exécution de ces recommandations qui n'ont jamais eu même un effet sur les rebelles du M23 est loin d'être vécue. Kinshasa doit chercher d'autres mécanismes à prendre pour trouver la solution durable à cette crise Sinon, nous allons toujours témoigner au bruit des armes.
Jean-Claude Mbambazé, le gouvernement a failli sur le plan militaire, politique, diplomatique, selon Laurentin Kourouziza, il est étudiant. Pour lui, il faut que le gouvernement cherche d'autres mécanismes pour une solution durable face à cette crise.
Oui, madame, je suis d'accord avec les propos de notre ami Laurentin. En tout cas, ce qu'il dit là, c'est au fait une réalité. Donc le gouvernement, c'est vrai, en voyant, en tout cas, depuis Tchanzo, Runyoni, et aujourd'hui à Mueso, jusqu'à Robaya, il faut dire qu'il y a en tout cas certains problèmes au sein même de l'armée. C'est pourquoi, en tout cas, parmi, c'est vrai que les solutions que propose notre ami, il faut chercher d'autres solutions. Bien sûr, la solution, nous pensons pour le moins, c'est la réorganisation au sein de l'armée. Parce que c'est de là que vient le problème. Donc, madame, il faut dire que moi, je voulais d'abord commencer par féliciter les hommes des troupes, les militaires FARDC. Ils ont fait ce qu'ils peuvent. Mais il y a un problème au niveau de la tête, au niveau de l'organisation de ces militaires. Madame, c'est peut-être la province qui a plus des généraux, en tout cas, au nord que nous. Et quand on voit tous ces généraux, nous nous demandons, ils sont en train de faire quoi exactement au nord Kivu. Donc on ne sait plus qui fait quoi, qui s'occupe de quoi, même les hommes de troupes ne savent pas, il faut répondre à qui, quand, et tout ça, ça crée en tout cas un désordre, même au sein des troupes. Je crois que parmi les solutions que le gouvernement doit prendre dans l'urgence, c'est la réorganisation au sein de l'armée, en commençant par le Nord Kivu, essayer de nous débarrasser tous ces généraux qui n'ont rien à faire dans le Nord Kivu, chercher un commandant unique, comme ça a été fait en 2012 avec le général Bahouma. Il était le seul commandant qui coordonnait les opérations. Mais pour le moins, on n'est plus le seul Nord Kivu. Pour cet affrontement ici, madame, on a un pléthore de gens qui apparemment, en tout cas, ne font rien, visiblement, parce que ils sont là, mais nous continuons à souffrir. Des autres sont peut-être récupérés par des bergers, c'est quand même pas normal. On doit quand même chercher à mettre en pratique toutes ces connaissances et tous ces spécialistes que nous avons dans l'armée, chercher quand même à trouver une solution. Ça, c'est la première des choses. Mais il y a aussi l'autre solution, c'est quoi? C'est aussi le contrôle même au sein même du gouvernement. On ne sait pas si réellement, au niveau de Kinshasa, est-ce que le gouvernement sera compte du danger que nous avons ici au nord Kivu, ou à l'est, à Rutshuru, Nyiragongo et Masisi, quand les gens sont peut-être, comme ils ont tout dit qu'ils sont à 2000 kilomètres, on ne comprend pas s'ils nous ont sacrifiés, ils n'ont qu'à nous le dire clairement, parce que nous savons que là où il y a un gouvernement, on doit chercher des solutions. L'M23 n'est pas quand même une rébellion qui peut défier tout un gouvernement, c'est quand même pas normal, et nous condamnons ça. Nous sommes vraiment, vraiment au bout, comme venait de le dire le professeur, la population est au bout, et elle ne supporte même pas entendre que le gouvernement a failli, non, c'est quand même pas normal. Mais l'autre chose qu'il faut aussi dire clairement, c'est aussi, en tout cas, mettre de l'ordre au sein même de la structure, la logistique au sein même de l'armée. C'est quand même pas normal qu'un militaire aille se battre, qu'il fasse tout, en tout cas, 5 mois en train de se battre, sans être relevé. Moi, j'ai vu des gens, depuis Tchanzu, sont en train de se battre jusqu'à moins seulement militaires. Est-ce que c'est pour dire qu'on n'a pas de militaire pour aller relever ceux qui sont sur le terrain? Non. Il y a aussi cette façon-là des infiltrés qui sont au sein de l'armée. Il faut dire, madame, ce qu'on a vu sur le terrain, c'est que quand il y a même des préparatifs d'attaque, ces préparatifs sont bien connus à l'avance par l'ennemi avant qu'ils ne soient mis en application. Donc, parmi les solutions aussi, il faut en tout cas à tout prix voir comment exfiltrer tous ces infiltrés qui sont dans l'armée. Je me rappelle aussi, comme expérience à l'époque de Bahouma, on avait pris tous les officiers, on les avait amenés à Kinshasa. Et on avait laissé les temps ici. Pourquoi ne pas prendre des gens? Nous avons déjà dénoncé même des traites avec des preuves. Ils ont certains ont été allés à Kinshasa, mais malheureusement, ils sont encore revenus ici avec des preuves qu'ils collaborent avec l'ennemi. Madame, c'est pour vous dire que nous, la société civile, c'est que nous comme des propositions, comme des preuves même de certains officiers qui sont en présence avec l'ennemi, qui c'est ça, prend toujours les choses à la légère, et c'est à la dernière minute qu'ils se rendent compte qu'ils sont déjà à un niveau très élevé, de la complicité.
Maître Juven Almounoubou, on va prendre aussi pour vous cette autre réaction qui nous vient de Butembo, Nord Kivu.
Je suis Josué Moutseke, j'appelle depuis Butembo. La RDC fait face à une guerre d'agression dont le M23, soutenu par le Rwanda, exécute les plans connus par la communauté internationale. Et si la guerre se joue sur les champs de bataille et sur les plans diplomatiques, les voix fusent de partout pour appeler la RDC à négocier avec l'ennemi sans pour autant sanctionner le Rwanda, pays agresseur. La naïveté, c'est de croire que les chefs d'État des pays de l'EAC soient-ils incapables de se parler en face avec leur homologue Kagame, incapables de sanctionner le Rwanda, peut sommer le M23 de respecter une feuille de route dont il n'est même pas signataire. Plus une fois, trahi par ses partenaires, la RDC doit tirer les conséquences, s'arrêter et apprendre à compter sur soi-même et se tourner vers des partenaires sérieux qui ne joueraient pas un double jeu, si du moins il y en a. Sinon, le jeu de l'EAC s'apparente à un somnifère, une politique de pourrissement.
Maître Juvenal.
Il a parfaitement raison, hein, Monsieur Josué, il a raison. Et puis, il y a des raisons, il y a des motifs légitimes de craindre une balkanisation, parce que pas plus loin d'ici, au Sud-Soudan, le Soudan était un seul pays, mais on a vu qu'à travers la guerre, le Soudan est devenu deux pays, par exemple. C'est pour dire que la balkanisation, ce n'est pas des fantasmes, donc c'est quelque chose qui peut arriver. Hein. Donc, de plus en plus, je commence à penser que il faut faire très attention avec ça. Je n'ai aucune preuve, évidemment, qu'il existerait un plan sur le Congo de cette balkanisation, mais il y a beaucoup d'indices qui montrent qu'il faut quand même rester assez prudent. Il y a lieu de craindre une situation catastrophique comme celle-là. Et c'est pas pour rien, par exemple, que le pape François, lorsqu'il est arrivé à Kinshasa, demande clairement de retirer vos mains de la RDC. Ça veut donc dire qu'il y a des mains des agresseurs sur le Congo, des gens qui veulent profiter des richesses du Congo. Alors, je crois qu'il a vraiment raison. Je vais revenir un peu, si vous permettez, sur le processus électoral, parce que je me trouve à Walikale. Je sais que le processus électoral connaît des graves difficultés au Nord Kivu, mais pour Walikale, globalement, ça évolue bien. Hein, ça évolue bien, excepté des cas comme, à la limite, avec Lubero, dans la localité de Munzoa, parce que là, il y a un chef de localité qui a refusé à ce que la population de Walikale s'enrôle là-bas et qui préférerait que ses électeurs soient plutôt... que ça soit plutôt les kits de Lubero qui enrôlent ces électeurs. Donc, il y a ces problèmes que la CENI devrait régler et que les autorités devraient régler, parce qu'un chef de localité ne peut pas s'opposer à la CENI, à un processus électoral qui est en route. Donc, globalement, Walikale, les kits sont arrivés à destination. Mais évidemment, Masisi, c'est fort perturbé. Rutshuru, on n'en parle même pas. Est-ce qu'il y a lieu de conclure que c'est compromis? Je crois que c'est assez tôt de dire cela. Hein. Il y a encore moyen de réorganiser la légitime défense, de réorganiser la résistance, de repousser l'ennemi et de sauver les processus électoraux. Donc je reste convaincu que le processus électoral, bien que ça se trouve maintenant là en difficulté, il n'est pas compromis au Nord Kivu. Et là, je contredis un tout petit peu professeur Bob Kabamba, même si je suis d'accord avec lui sur bon nombre de ses analyses par rapport à la question sécuritaire.
Merci.
Nous sommes obligés de nous défendre, même si il y a des faiblesses au sein de l'armée. Dans une situation comme celle-ci, nous sommes obligés de nous défendre. Nous ne pouvons pas dire, voilà, comme nous avons des problèmes organisationnels au sein de l'armée, face à une agression, la solution qui resterait alors, c'est la négociation. On ne peut pas les dire comme ça. Ça serait comme si nous nous mettions nous-mêmes dans une posture de faiblesse, ou que nous encourageons nous-mêmes une posture de faiblesse.
Professeur Bob Kabamba, on va prendre aussi pour vous cette dernière réaction qui nous vient de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga.
C'est Djuma Bin Moulage depuis Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. À mon humble avis, je pense que les chefs d'État de l'EAC ont perdu du temps à rédiger cette feuille de route en sachant que ces recommandations ne seront jamais suivies. Le M23 ne peut jamais se retirer sans qu'il n'y ait pas un costing, un slogan digne d'intérêt. On ne négocie pas avec les terroristes. C'est de ça que les autorités congolaises devaient s'en tenir en vue de protéger ses frontières. Rester à attendre l'exécution de cette feuille de route est une façon d'accepter délibérément les atrocités commises par les rebelles.
Professeur Bob Kabamba.
Merci beaucoup. Ce qu'il faut bien savoir par rapport à cette feuille de route, ce n'est pas une feuille de route qui a été discutée sur un coin de table. Il faut avouer qu'il y a aussi le chef d'état-major de l'armée congolaise qui était présent et qui a signé cette feuille de route. C'est aussi un exemple justement de cette incompréhension qu'il y a entre d'une part la version nationale, c'est-à-dire la version congolaise, par rapport aux autres versions. Et lorsque on entend par exemple l'auditeur parler de la feuille de route, on a l'impression que c'est une feuille de route qui a été dictée par l'EAC au Congo, alors que le Congo a participé aux discussions et a conclu par rapport à la feuille de route qu'elle a été signée. Donc la signature du chef d'état-major engage effectivement la RDC dans cette voie. Mais parallèlement à cette feuille de route, elle a été contestée ensuite par le ministre des Affaires étrangères au Congo en disant, ben non, il fallait d'abord analyser le contenu. Alors là aussi, justement, c'est ce genre de choses qui continuent toujours à avoir, comme j'ai expliqué tout à l'heure, cette lecture différente entre d'une part la lecture congolaise et d'autre part la lecture des pays et donc de la région. Alors on revient à la question fondamentale qui est la question toujours de dire, ben, on ne négocie pas avec le M23, d'accord? Si on ne négocie pas avec la M23, il faudrait que le Congo soit maintenant en mesure de pouvoir avoir une armée capable de battre le M23. Quand je dis M23, nous savons tous que le M23 est soutenu par le Rwanda et je réinsiste aussi par l'Ouganda. C'est-à-dire il faut que le Congo soit et une armée capable de pouvoir arriver à récupérer les terrains qui ont été conquis par ce groupe. Et donc là, on part, quand on pose cette question-là, c'est de poser la question, la situation va-t-elle rester telle qu'elle est si on n'arrive pas à vaincre le M23, ce qui veut dire ben, que la situation de balkanisation va devenir une situation de fait, et même se consolider, et peut-être encore une fois, est-ce qu'ils vont rester dans les territoires qu'ils sont en train de contrôler? Au vu de ce qui est en train de se passer sur le terrain, ben, j'aurais du mal à penser que le M23 va s'arrêter là où il est aujourd'hui. Peut-être que ce sera Sake bientôt qui va être passé sous contrôle. Et quand on dit Sake, nous connaissons tous très bien cette région. Et Sake, ça veut dire que Goma n'est plus vraiment nécessairement sécurisé. Et quand on dit Sake, on a aussi toute la vision, toute la route qui va vers le sud Kivu, et avec autant d'autres groupes armés, autant d'autres problèmes qu'il y a dans cette province. Et donc, je ne pense pas, de mon point de vue, que le fait de pouvoir arriver à stopper vraiment, véritablement, à faire un blackout par rapport à cette question, que nous allons résoudre le problème et qui va continuer, de mon point de vue, à s'empirer, malheureusement, alors, tant que le Congo n'arrivera pas à avoir une armée digne de ce nom.
Alors, professeur, le M23 a jusqu'au 30 mars pour se retirer définitivement des localités de territoire de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi. Vous pensez que, avec l'arrivée du président français, ça pourrait changer quelque chose de son terrain?
Oui, je pense. Le M23, de mon point de vue, le M23 ne va pas se retirer des territoires qu'ils sont en train de conquérir, parce que c'est ce qui fait leur force, parce que tout ce qu'ils veulent, c'est de pouvoir forcer Kinshasa à s'asseoir pour discuter avec eux. Or, si vous leur demandez de reculer par rapport aux territoires qu'ils ont déjà conquis, ça veut dire qu'ils seront déforcés au moment de pouvoir revendiquer, de porter leurs revendications. En gardant les territoires qu'ils contrôlent, même en agrandissant ces territoires, ils continuent justement à exercer une pression sur les dirigeants à Kinshasa pour ramener Kinshasa à aller dans leur direction. Ça, c'est l'analyse, malheureusement, l'analyse froide, qui ne veut pas dire que je suis pour M23 ou je suis pour le Rwanda ou pour l'Ouganda. C'est une analyse simple. Et quand tu gagnes quelque chose et qu'il fait ta force, ça serait suicidaire de perdre ce qui fait ta force pour te retrouver en position de faiblesse par rapport à l'autre. Et donc, Merci. Moi, je ne pense pas que le M23 va pouvoir se retirer d'ici le 30 mars.
Merci, professeur Bob Kabamba. On va considérer cela comme votre conclusion. Jean-Claude Mbambazé, nous sommes à la fin de l'émission. Vous pensez que d'ici le 30 mars, le M23 pourrait respecter la feuille de route?
Bon, croire à ça, ce serait croire que un jour, le diable va se convertir et va devenir chrétien. Donc ça, c'est vraiment une utopie. Mais je voudrais quand même se conclure en disant que les populations qui vivent sous l'M23 ont aussi droit, comme tous les Congolais, et que comme vous le savez, la CENI, qui est en train de faire les enrôlements pour le moment, c'est ce fichier-là qui sera envoyé à l'ONIC pour trouver des cartes d'identité, et que donc, il serait vraiment imprudent, il serait vraiment très malheureux de laisser tous ces Congolais, qui sont à Rutshuru, à Nyadongo, partout là, sans carte d'identité, avec toutes les conséquences que ça pourrait engendrer. Et que donc, il est grand temps que le gouvernement prenne les choses en main, qu'il utilise tous ses moyens pour mettre au pied des murs le M23, afin qu'on se rassure que nos populations qui sont en difficulté en souffrance dans le cadre des réfugiés, dans le cadre des déplacés, rentrent chez eux et que Milan Tosi puisse aller suivre comme il est prévu.
Merci Jean-Claude Bambazé. Maître Juvenal Monobo Mobi, député national, il est de Walikale Nord, qui vaut votre conclusion.
Nous n'avons pas le choix, nous devons nous défendre, malgré les moyens, malgré tout, nous devons nous défendre. Ça, c'est une première solution, c'est-à-dire solution militaire. Deuxième solution, continuons à faire pression à l'international pour que l'international, c'est-à-dire les grandes puissances, fassent pression sur Kagame et que Kagame retire ses troupes de l'Est de la RDC. Ne nous fatiguons pas et ne perdons pas espoir. Nous allons recouvrer l'autorité de l'État, l'intégrité de notre territoire.
Merci Maître Juvenal, Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Donna Madimba qui a réalisé cette émission. La mise en onde était assurée par Charlie Louyeye, présentation et coordination, Kéline Couté, en suite de programme sur la fréquence de la paix.